enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Donc, reprenons Éphésiens chapitre 4. Hein. Je pense que c'est très important, peu importe quel ministère auquel nous sommes appelés, il faut que nous comprenions les cinq ministères d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Et je vous donne ce que, qui m'a été donné, qui m'a beaucoup aidé. C'est très très simple, mais je crois que ça aide. Donc j'utilise la main, il y a cinq doigts, n'est-ce pas? Donc si on compte le pouce comme un doigt. Donc apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, et, docteur, d'accord? Donc, l'apôtre, il fait un peu de tout. L'apôtre est mandaté de Dieu pour aller ou pour annoncer quelque chose. Ouais, quelquefois, on a limité l'apôtre à celui qui commence les églises. Ça fait partie, souvent, de l'apostolat. Ouais, mais c'est plus que cela. C'est aussi, quelquefois, un message particulier pour le corps de Christ. Vous allez trouver que Dieu va susciter un homme ou une femme qui annonce un message comme Jean-Baptiste dans le désert. Il va annoncer fort un message et il peut-être au commencement il va être très très attaqué à cause de cela, mais il va emmener le corps de Christ dans une nouvelle dimension qui après une réflexion les gens réalisent bien biblique. Paul dit en Éphésiens, oui, que Dieu nous donne un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance, qu'il ouvre les yeux de notre cœur. Je sais pas si vous réalisez, mais pendant des siècles, le message que le juste vivra par la foi était caché. Et Martin Luther a redécouvert ce message qui était tout le temps dans la Bible, n'est-ce pas? Et dans chaque génération, on voit encore de la parole de Dieu qui sort et qui libère. Amen? Et l'apôtre peut avoir ce message où il peut être envoyé pour commencer l'église ou des œuvres, d'accord? Mais il touche un peu tout. Parce que quand il commence l'église, il a besoin de faire le travail de prophète, d'évangéliste, de pasteur et de docteur. N'est-ce pas? Mais souvent, un apôtre n'est pas quelqu'un qui est stationnaire. Il ne reste pas en place. Il bouge. Et ce qu'on voit avec plusieurs de ces ministères, il ne reste pas en place. Je sais que tout le monde veut avoir tous ces ministères dans leur église locale, mais normalement, ça va créer plus de problèmes que de bien s'y reste. Le prophète, c'est le doigt qui pointe. Notre plus grand problème avec le prophète, le Nouveau Testament, c'est que nous le mélangeons avec le prophète de l'Ancien Testament. Le prophète de l'Ancien Testament parlait de la part de Dieu aux hommes. Il donnait des directions personnelles aux hommes. Pourquoi? Parce que les hommes n'étaient pas remplis du Saint-Esprit et ne pouvaient pas être conduits par l'Esprit de Dieu pour eux-mêmes. Et souvent, nous voulons faire du prophète du Nouveau Testament un prophète de l'Ancien Testament. Et c'est une grande erreur. D'accord? Mais il pointe les directions, il parle, il va venir dans l'église et donner un message de direction. Mais vous savez, quand il y a un pasteur dans l'église, c'est le pasteur qui dirige l'église. Et tout autre ministère qui vient dans l'église doit se soumettre au ministère du pasteur. Parce que quand ils sont partis, et même oubliés, le pasteur est là et doit réparer les dégâts. L'évangéliste, donc c'est le doigt le plus long parce qu'il va plus loin que les autres. L'évangéliste a à cœur une chose. Il a un seul but, c'est d'évangéliser et faire évangéliser. Il ne fait pas l'évangélisation pour l'église, comme certains pensent. On va faire venir un évangéliste et on va faire entrer beaucoup de gens dans l'église. Il ne va pas le faire. L'évangéliste peut seulement faire son travail si l'église est mobilisée et ça fait partie de son travail. Donc, il va prêcher Christ plus que toute autre chose. Normalement, son message se résume en « Christ est crucifié et ressuscité, répentez-vous ». Souvent, l'évangéliste a des dons de l'esprit particuliers comme dons de guérison, délivrance. Pourquoi? Parce qu'il va vers les gens non convertis. Mais son rôle n'est pas seulement d'évangéliser, mais d'enseigner et de mobiliser l'église à évangéliser. Parce que c'est le travail de chacun. Comme nous a dit, un des ministères les plus importants, c'est le ministère d'ambassadeur pour Christ. Après, on a le pasteur, donc c'est le doigt à bague, n'est-ce pas? Hein? D'alliance. Oui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui aime l'église. Celui qui reste, quand les autres sont partis, parce que c'est vrai, quelquefois on a des gens avec plein de feu et des ministères de puissance qui viennent entre l'église, et les gens, une fois qu'ils sont partis, me disent, et Pasteur John, pourquoi tu n'es pas comme ça? Et je dis, mais vous savez, je peux devenir comme ça et partir aussi. Non, reste comme vous êtes. C'est très bien, on veut que vous restez, pasteur. Le pasteur, il est là. C'est le pasteur qui nous rend visite quand nous sommes à l'hôpital. C'est le pasteur qui présente nos bébés, qui nous marie, n'est-ce pas, qui fait les enterrements. Le pasteur est celui qui est sur place, qui prend soin du berger. Et quand Jésus a vu, peut-être on regarderait ça en Matthieu 9, 38, il voyait les foules, il a eu compassion d'eux, et il a dit, ouais, que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson, n'est-ce pas? Oui. Mais il dit, voyant la foule, verset 36 de Matthieu 9, il dit, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Il n'a pas dit qu'ils étaient des brebis qui n'ont point d'apôtre, ou de prophète, ou d'évangéliste, ou de docteur. Les brebis ont besoin d'un berger, et j'espère que vous direz avec moi, mon berger, c'est Jésus. Amen. Mais il a mis des sous-bergers pour diriger l'église locale, et vous devrez savoir qui est votre berger, l'église locale. C'est comme les chrétiens qui ne savent pas où est l'église locale, ils se lèvent dimanche matin et disent, je vais à l'église où aujourd'hui? Ouais. Moi je dis, je ne demande pas de quelle famille je suis. Ouais. Quand je termine mon travail, je ne dis pas, où est-ce que je rentre ce soir? Je rentre chez moi. J'ai une femme. Et j'ai mes enfants. Amen. J'ai ma maison. Et c'est pareil, spirituellement, les gens qui vagabondent d'église en église, vous allez trouver, ils sont ces enfants qui sont flottants et emportés de toute vente de doctrine. Vous les avez rencontrés il y a 10 ans passés, vous les rencontrez aujourd'hui, ils ont exactement les mêmes problèmes. Mais celui qui s'est engagé dans la vie de l'église, qui a trouvé un pasteur, vous allez voir, il a réglé beaucoup, beaucoup de ses problèmes. Peut-être plus tous les problèmes qu'ils avaient eus il y a 10 ans n'existent plus. Il y a d'autres choses parce qu'il y aura toujours des choses à régler. Et moi je dis, presque peu importe quelle église c'est. Parce que Dieu a établi des pasteurs dans l'église pour diriger le peuple, pour les aider à grandir. Exactement quand il a établi dans la famille des parents pour élever les enfants. Amen. Et je ne sais pas si vous êtes parents, mais si vous êtes parents, on a un but, n'est-ce pas? C'est d'élever nos enfants qui puissent quitter la maison. Non pas qu'ils restent. Non pas qu'il reste bébé, n'est-ce pas? On veut qu'il grandisse, qu'il devienne adulte. Amen. Il se peut qu'ils vont rester dans les alentours, mais on veut que même ils quittent la maison et qu'ils établissent eux-mêmes une famille, n'est-ce pas? Le pasteur, notre but, c'est d'élever les gens pour devenir adultes en Christ et remplir leur ministère. Et peut-être on va rester dans cette église toute notre vie, mais peut-être Dieu va nous appeler ailleurs pour le servir. Maintenant, on a beaucoup de gens qui quittent les églises. Et si je lui demande pourquoi vous avez quitté, parce que le pasteur ne fait pas ceci, parce que le pasteur... La seule raison pour quitter l'église, c'est parce que Dieu nous appelle à aller ailleurs et faire quelque chose. Pas parce qu'on est frustré avec quelqu'un ou fâché avec un autre. Parce que ce que vous allez trouver, ceux qui sont fâchés dans l'église vont aller dans le proche et être fâchés dans l'autre. Oui. Je me rappelle un jeune homme qui est venu vers moi et dit, prie pour moi, il faut que je change d'emploi parce que mon patron, il est méchant avec moi. Et donc j'ai prié avec lui, il a changé d'emploi. Et il était ravi avec son nouveau patron pendant au moins 6 semaines. Et après la 7e semaine, il vient, est-ce que tu peux prier avec moi parce que mon patron est méchant avec moi, il faut que je change d'emploi. Donc, bien entendu, en tant que gentil pasteur, j'ai prié avec lui. Mais quand c'était arrivé le 7e ou 8e fois, j'ai dit, peut-être tous les patrons ne sont pas si méchants. Peut-être ce jeune homme a besoin de régler quelque chose lui-même. Et on voit exactement pareil dans l'église. Ouais. Donc, quand les gens viennent dans votre église et commencent à critiquer votre pasteur, vous dites, chut. On ne critique pas le pasteur ici. On sait que c'est pas un homme parfait, mais il appelle Dieu, et si on a besoin de faire quelque chose, c'est de prier pour lui. Et le soutenir. Amen? Hallelujah. Mais il dit qu'ils étaient des brebis abattus et languissants comme des brebis qui n'ont pas de berger. Avez-vous un berger? Avez-vous une église locale? Parce que pour accomplir ce que Dieu vous a appelé à faire, il vous faut un berger, une église locale. Laurent et moi, nous avons un pasteur. Nous avons une église, ouais. Pourquoi? Parce que nous sommes pasteurs, mais nous avons besoin aussi de soutien. Amen? Et je me rappelle, en tant que jeune homme, Dieu m'a dit, voilà ton église, voilà ton pasteur. Et je suis parti de la maison pour aller faire des études, et pendant 3 ans, j'ai fait des études, j'ai été fidèle dans les églises. Donc, j'étais à 200 kilomètres de la maison, mais je savais qu'il fallait rentrer dans mon église. Et dans une église, il dit, si vous voulez qu'on vous conseille, qu'on vous aide, il faut couper les liens avec votre église et devenir membre de cette église. Il dit, je ne peux pas faire ça. Je dis, je suis fidèle ici, pendant que je suis ici, c'est ici que je donne ma dîme, parce que je suis nourri ici, mais je sais que Dieu m'a dit d'être membre de cette église, ouais, à la maison. Et donc, il refusait de nous conseiller, de nous aider. C'était vraiment triste. J'ai vécu vraiment un drame là, mais heureusement, j'ai écouté. Tu vois? Pourquoi? Parce que l'autre église était toujours là, et j'ai rentré à la maison, on a partagé notre cœur, c'est là où je suis marié, c'est là où on était baptisé, mes parents étaient baptisés là, ils sont devenus membres là, Laure est devenue membre du même église, parce qu'on a décidé, on allait se marier, il sera bon d'être membre de la même église. Et, quand nous sommes partis faire l'école biblique, ouais, on est partis avec leur bénédiction, sans leur soutien, première année, deuxième année, ils ont décidé de payer nos études, pas notre vie, mais nos études, c'était génial. Et quand nous sommes revenus, ils ont commencé de parler avec nous, ils étaient très gentils, ils nous ont laissé nettoyer le bâtiment de l'église, et avoir une réunion d'enseignement, mais on n'avait pas le droit de faire la publicité, mais Dieu a fait la publicité. Et, mais quand nous sommes partis en France, on a commencé l'église, ils ont dit, on paiera votre salaire. Et ils ont payé notre salaire, on a pu commencer plein de temps, à cause de cette église. Et quand je dis, j'aurais pu abandonner cette église parce que les autres ont exigé quelque chose de moi, mais j'ai gardé mon cœur. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, tu restes dans cette église. Et c'est nous qui avons demandé à l'église d'arrêter de nous soutenir quand on a cru que c'était le temps pour notre église de nous payer notre salaire. Et on les a écrit gentiment, et merci pour votre soutien, mais vous pouvez arrêter de nous soutenir maintenant. L'église va payer notre salaire, qu'ils ont fait. Hein? Mais moi je dis, si j'avais pas fait ça, oui, j'aurais pas eu ce soutien, mais spirituellement, ils étaient toujours, toujours derrière nous. Et les premières quelques années, ils envoyaient les gens régulièrement pour nous rendre visite, pour nous encourager. Même quand nous étions en train de faire des études, un des anciens est venu avec sa femme, oui, dans la ville pour nous encourager. Il nous a sorti manger. Je pense que c'était peut-être un des seuls bons repas qu'on a mangé pendant les 2 ans qu'on était étudiants, mais c'est pas grave. Oui. Et ils nous ont encouragés et dit, Dieu savait qui était mon pasteur, quelle était mon église. Amen. Et je dis ça pour vous, et c'est important de savoir pourquoi Dieu vous a mis quelque part. On n'est pas bloqué là, on n'est pas lié là, mais notre cœur doit être décidé. Amen. Et quand je vois les gens sauter d'église en église, toujours en train de se fâcher et de critiquer, la critique ne fait pas partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de notre ancienne vie, n'est-ce pas? La prière fait partie, et tu ne peux pas critiquer ceux pour lesquels vous êtes en train de prier. Amen. Mais ça c'est le doigt de l'alliance, n'est-ce pas? Après, il y a le petit doigt, qui est le docteur. Et quelqu'un dit, le docteur, c'est le petit doigt parce qu'il va dans l'oreille, n'est-ce pas? Il va nous enseigner les choses, il va toucher les choses profondes. Et un docteur n'est pas quelqu'un qui connaît l'hébreu et le grec, peut-être. C'est quelqu'un qui nous ouvre la parole de Dieu. Il va nous faire approfondir l'enseignement de la parole de Dieu et on a besoin de ça. Donc, on peut avoir plusieurs sortes de docteurs. Parce que le docteur peut faire partie de l'église locale. Souvent, on voit les pasteurs qui sont pasteurs docteurs. Mais souvent, on trouve dans les églises docteurs qui sont là plein de temps aussi. Ça veut dire que leur place est dans cette église. Ouais. Et ils sont tellement utiles parce que le pasteur ne peut tout faire. Vous m'avez entendu? Je vous ai déjà dit, je pense lundi, le pasteur n'est pas un prêtre. Mais encore, on a cette image du pasteur que il est payé pour cela. Nous le payons pour cela. Ouais. Donc, il doit tout faire. Une église qui a cette attitude ne va jamais grandir. Oui. Le pasteur est là pour donner la direction, pour prendre soin, pour encourager, aider les gens. Mais un pasteur qui peut réussir, c'est un pasteur qui a autour de lui des hommes et des femmes qui deviennent mûrs et qui prennent leur place. Et on a besoin des docteurs dans l'église pour enseigner les différents groupes, pour enseigner les différentes choses et pour libérer le pasteur. Vraiment pour diriger. Mais on peut être un docteur aussi sur un plan régional ou national ou même international. Et je pense que vous avez reçu pas mal des docteurs ici. Je suis pasteur dans mon église, je suis docteur dans mon église. J'enseigne. D'accord? Et ce qu'on voit, il y a une onction sur chacun de ces ministères. C'est pas qu'ils sont en train de prétendre quelque chose, mais il y a une onction quand ils ouvrent leur Bible. La façon, quand tu as l'évangéliste devant vous, vous avez un envie. C'est d'aller gagner. Tu veux même arrête la réunion. Il faut que je parle, parler avec quelqu'un, n'est-ce pas? Ils ont une onction pour ça, pour transmettre. Le docteur, il nous donne une passion pour la parole. On veut étudier notre Bible quand il est parti, n'est-ce pas? Et si on est ennuyé par son enseignement, il n'est pas un docteur ou un de Dieu, hein? Il est ennuyeux. Excusez-moi, je suis un peu peut-être trop franc, mais c'est vrai. J'ai appris qu'il y a certaines personnes qui m'apportent énormément. Il y a d'autres personnes qui ne m'apportent pas. Oui, j'écoute ceux qui m'apportent. D'autres apprécient d'autres personnes. Et j'ai aucun problème avec cela. Je ne dis pas parce que quelqu'un ne m'apporte pas que cette personne n'est pas loin de Dieu, parce que je vois d'autres qui reçoivent énormément d'eux. Vous me suivez? Il y avait un pasteur qui allait venir des États-Unis ici en France, et tout le monde est né. Vous y allez, vous y allez. Je me suis demandé, mais s'il était dans ma ville, est-ce que j'irais? Je dis, non, parce qu'il ne m'a jamais apporté quelque chose. Donc, je ne vais pas traverser la France pour aller l'entendre. N'est-ce pas? D'autres personnes, je traverse l'Europe pour l'entendre. Pourquoi? Parce que chaque fois que je suis dans leur réunion, je suis, oui, j'utilise le mot, gonflé spirituellement. C'est comme si, ouais, ils ont seulement besoin, j'ai seulement besoin d'être dans la réunion avec eux et ça me fait du bien. Oui, il y a des gens que j'écoute par Internet. Des gens, je fais venir leur CD. On va venir des DVD. Pourquoi? Parce que je sais que chaque fois que je l'entends, ça me fait du bien. Ouais. Il y a une multitude de ministères. On ne va pas être nourri. Certains livres, tu vas lire, ça dit, c'est bon. D'autres livres, tu vas dire, oh, ça a changé ma vie. N'est-ce pas? Oui. Et d'autres vont dire que le livre qui n'a rien fait a changé leur vie. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est le corps de Christ. Amen. Chacun est différent et gloire à Dieu pour ça. Donc ne critique pas quelqu'un parce qu'il t'a rien apporté, parce que tu vas entendre les autres dire combien il les a bénis. Et on dit Alléluia. C'est tout, n'est-ce pas? Amen. Hallelujah. Une chose qui revient beaucoup, beaucoup dans mon esprit, oui, si nous sommes en train de critiquer, nous n'allons pas prendre notre place. N'est-ce pas? Regardez, constatez, Jésus connaissait le cœur. Quelquefois, tu vas voir les choses qui sont mal faites. Et vous avez le droit de constater ça. Mais c'est quand vous commencez à parler et critiquer que vous mettez un blocage entre vous et ce que Dieu veut faire. Amen. Je trouve qu'il y a des choses, donc, si vous cherchez la perfection chez les hommes, vous allez être déçus. Et certains de vous avez déjà été déçus. Oui. On a un homme parfait. Il s'appelle Jésus. Il est notre Seigneur et Sauveur. Et j'utilise mes mots. Il est un homme. Il est devenu un homme. Il n'est pas arrêté d'être un homme. Nous avons un homme à la droite de Dieu qui intercède pour nous. Il sait exactement de quoi nous sommes formés. C'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Mais quand on veut faire de notre pasteur notre Seigneur Sauveur, on fait une grave erreur. Quand on veut faire de n'importe quel homme. Et vous savez, il y a une différence entre apprécier un homme. Nous étions dans le centre de formation de Kenneth Hagin. Et on appréciait énormément cet homme. Oui. Il nous a apporté, il nous a aidé à comprendre les choses. Surtout parce que le but de ce centre de formation biblique, c'était de libérer les gens pour accomplir l'appel de Dieu. Et non pas pour dire aux gens ce qu'ils devaient faire. Donc ça nous a aidé énormément. Mais d'autres ont fait de lui, tu vois, un super héros. Tu vois, que si quelqu'un autre avait quelque chose à dire, il ne fallait même pas écouter. Ouais, mais, et je dis, mais c'est la folie. Pourquoi? Parce que d'autres en ont parlé dans ma vie. D'autres femmes ont parlé dans ma vie. C'est un homme en particulier qui m'a fait du bien. Vous comprenez? Et vous allez trouver que Dieu va utiliser certaines personnes, peut-être pendant une période dans votre vie. Amen. Mais ne faites pas de cette personne votre gourou personnel. Amen. Vous me suivez? Parce que certains font ça. Et c'est comme ils louent la personne plus que Dieu. Et ça, c'est grave. Oui? Gardons cette intimité avec Dieu, n'est-ce pas? Et s'il utilise un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, pour vous bénir, remercie Dieu. Amen. Mais je vais marquer chaque personne qui met quelqu'un autre sur un pédestal. Un jour, la personne tombe du pédestal. Et là, on est déçu. Et je ne peux pas croire qu'il m'a fait cela. Et... Vous me suivez? C'est des hommes et des femmes. Et gloire à Dieu, ils ne sont pas parfaits. Ça doit nous encourager. Ça veut dire que si Dieu peut les utiliser, imparfaits qu'ils sont, il peut nous utiliser aussi, imparfaits que nous sommes. Bien que nous vivons, mais nous visons la perfection. Amen. Ne visons pas l'imperfection. Ne vous donnez pas un permis pour pécher. Mais si vous péchez, nous avons un avocat devant Dieu. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Hallelujah. Qu'est-ce qu'on va regarder? Ok. Un Timothée 3. Je pense que ce sera bon de voir ça. Donc, comme j'ai dit, et je pense que vous avez déjà saisi, nous ne faisons pas l'erreur de penser qu'il n'y a que les cinq ministères, et si nous ne sommes pas appelés à ce ministère, nous n'avons pas de ministère. C'est une grave erreur, d'accord? Parce que ces cinq ministères peuvent seulement en réalité fonctionner bien quand les autres dans le corps de Christ prennent leur place. Donc, il se peut que vous aurez un ministère vocal, Il se peut pas. Laissez Dieu décider, n'est-ce pas? Mais ce que nous remarquons, je vais dire 5, mais je ne sais pas si c'est 5 ou si c'est 6, il dit, vous devrez déjà être tous enseignants, oui, mais vous n'êtes pas. Où est-ce que c'est marqué? Je vais le trouver. Ah, 5:12, il dit, vous en effet qui depuis longtemps devrez être des maîtres, le mot traduit mieux enseignement, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Parce que Dieu nous donne à enseigner, ça ne fait pas nous un docteur de la parole, mais nous devons tous pouvoir enseigner ce que nous avons appris, n'est-ce pas? C'est comme un petit garçon qui devient un frère, un grand frère, il doit enseigner à son petit frère, le nouveau qui arrive, ce qu'il a appris, n'est-ce pas? Et on lui dit, montre-lui comment faire. Et dans l'église, tu vois, peut-être tu étais le bébé pendant longtemps, mais vous n'êtes plus. Ouais? Et c'est l'heure de dire, qu'est-ce que j'ai appris que je peux enseigner à quelqu'un d'autre? Et en réalité, quand on vous demande faire quelque chose, vous devez poser la question, Seigneur, à qui est-ce que je peux demander pour m'aider? Parce qu'on fait l'erreur dans le corps de Christ, c'est qu'on donne une tâche à une personne, et le diable cible cette personne pour que cette tâche ne soit pas accomplie. Ce qu'on devrait faire, c'est qu'on on demande faire quelque chose, c'est prier Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un que je veux demander d'apprendre avec moi, de faire avec moi, voir avec le pasteur, la personne qui nous demande, est-ce que vous me permettez que quelqu'un fasse avec moi et on apprendra ensemble, et comme ça, nous sommes deux. Parce qu'on devait multiplier le travail, et non pas le diviser. Et ce que nous avons remarqué dans beaucoup d'églises, on donne une tâche à une personne, et le diable cible cette personne. Et quand cette personne n'est pas là, rien ne se passe. Mais quand tu as un deuxième, un troisième, un quatrième, ouais, tout continue et les gens apprennent. Et nous devons être disciples. Et vous comprenez la différence sorte de disciples. Parce qu'il y a les disciples grecs qui apprennent théoriquement. Mais il y a le disciple hébreu qui apprend en se mettant au travail avec le maître. C'est cette sorte de disciple que nous devons être, n'est-ce pas? Ouais. Et quand quelqu'un vous demande faire quelque chose, vous devrez dire, oui, montre-moi, maintenant faites avec moi, après surveille-moi. Ouais. Parce que souvent, on se permet de dire, ok, je vais le faire, sans aucune connaissance comment le faire, et il nous lâche, ouais, dans la nature faire des choses, et on ne sait pas si on a bien fait, et c'est seulement quand on fait une erreur qu'il vient nous reprendre. Et là, on est attristé, blessé, et tout le reste, mais on n'a jamais su comment bien faire pour commencer. N'est-ce pas? Ok? Je me mêle peut-être. Je vais lire la parole. 1 Timothée 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque et désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Donc ici, l'évêque, ça aurait pu être traduit pasteur. Ok? Il dit, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Il ne dit pas qu'il ne boit pas du vin, il dit qu'il ne soit pas adonné au vin. Parce qu'il y a certains enseignements qui sont, moi je les vois pas dans la parole de Dieu. Moi je dis, si jamais vous avez un problème avec de l'alcool, ne bois plus jamais. Ne le touche plus jamais. Pourquoi? Parce que le diable va utiliser ça pour vous perdre. Ouais. Si vous n'avez pas, jamais, vous n'avez jamais eu un problème d'alcool, bois, ouais, qu'est-ce que c'est? Avec modération. Ouais, comme il est écrit sur toutes les publicités d'aujourd'hui. Amen. Si vous êtes avec les gens qui ont eu des problèmes avec d'alcool, quand vous êtes avec eux, ne bois pas. Ne sois pas une occasion de chute pour eux. D'accord? D'accord? Il faut que nous apprenions ces choses. Parce que quelquefois, on fait des règles qui ne sont pas bibliques. Mais quelquefois, on fait des choses et on mange sur les gens. Et on les fait beaucoup de mal. Les gens nous ont demandé dans notre église, est-ce qu'on peut pas prendre la Sainte-Cène avec du jus de raisin parce qu'on a eu des problèmes d'alcool et seulement de goûter un petit peu de vin va nous faire retomber. Et je dis, ça semble sensible, ça semble raisonnable, ok, on va le faire. Amen. Aussi, nous encourageons les enfants dans l'église de prendre le Saint-Seine. Et ça scandalise les gens. Nous avons des gens qui ont quitté l'église parce qu'on laisse les enfants prendre le Saint-Seine. Mais moi, je dis, ils font partie, selon ma Bible. Oui. Ils sont sanctifiés par les parents qui croient. Amen. Et moi, je veux qu'ils apprennent qu'ils font partie aujourd'hui du corps du Christ. Amen. Mais ils ne sont pas sauvés. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont sauvés ou pas. C'est pas, pour moi, ce n'est pas la question. Nous invitons les gens de venir recevoir le Saint-Seine. Et on dit, si vous vous approchez de Dieu, vous voulez connaître Dieu, viens prendre avec nous. Pourquoi? Parce que nous voulons pousser les gens. Nous voulons rassembler les gens. Et on n'a jamais eu moins de puissance, moins d'onction, moins de guérison après cela qu'avant. Amen. Hallelujah. Et peut-être ça choque certains. Désolé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tient ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Je dirais un mot là. C'est que un homme qui tient ses enfants tellement bien, qu'il ne peut pas bouger, il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer, moi je dis, je ne le veux pas comme mon pasteur. Moi, je veux quelqu'un qui a libéré ses enfants, qui puisse s'exprimer, et s'ils font un peu de bruit de temps en temps, ça ne me gêne pas. Parce que moi aussi, en tant que membre d'église, moi, je veux pouvoir faire un peu de bruit de temps en temps. Amen. Et quand vous voyez comment un homme traite sa femme et sa famille, vous voyez comment, en tant que pasteur, il va traiter l'église. Peut-être je devais dire ça au pasteur. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur, gonflé d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres. Ok? Les diacres. Donc certains disent que leur église est possédée par des diacres. C'est dommage, parce que être un diacre est quelque chose de biblique. On voit ça et on va lire dans un instant Actes chapitre 6. Ou peut-être on devait lire Actes chapitre 6 d'abord et revenir ici. On va faire ça. Mettez votre marque-page et on va aller en Actes chapitre 6. Qui n'a pas de marque-page? Tu mets le doigt. Oui, mais il se peut que je vous laisse là longtemps. Donc, je ne veux pas avoir besoin de payer pour prier pour tous les doigts après. Ouais. Actes chapitre 6. Rappelons-nous une chose. Dieu n'est pas religieux. Amen. Et vous non plus, vous ne devez pas être religieux. Trop souvent, on prend les principes de la parole de Dieu et on fait toute une religion. Quelle est la différence entre le christianisme et les religions du monde? C'est que les religions du monde, par leurs bonnes œuvres, essaient d'atteindre Dieu. C'est l'homme en train de faire ça. Peut-être je peux atteindre Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et on prétend beaucoup de choses. Et certains prétendent qu'ils peuvent devenir assez justes pour arriver à Dieu. Mais nous savons qu'il y a une grande différence avec le christianisme parce que c'est Dieu qui est descendu. En disant, vous n'allez jamais m'atteindre. Tu ne peux pas. Ton péché te sépare de moi. Ouais. Donc, je descends. Je deviens homme. Je meurs à ta place. N'est-ce pas? Ouais. Et je fais le pont. Ouais. Entre vous et le Père. Et ça, c'est le christianisme. C'est une relation personnelle, intime avec Dieu. Mais encore, vous allez trouver les gens qui réclament que nous sommes une religion, qu'on fait partie des grandes religions du monde. Et moi, je dis, pas du tout. Nous sommes un autre style de vie, une autre dimension de vie. Nous sommes en rapport avec Dieu. Mais beaucoup de gens font de leur rapport avec Dieu une religion. Ils n'lisent pas leur Bible pour parler avec Dieu, pour entendre Dieu. Ou prier pour entendre Dieu. Et ils lisent leur Bible parce que le pasteur a dit. Parce qu'il faut le faire. Des bons chrétiens lisent leur Bible, non? Des bons chrétiens lisent leur Bible pour parler et entendre Dieu. Oui? Les gens tombent vers Mecque 5 fois par jour. Oui? Donc peut-être nous devons prier un peu plus. Mais nous sommes en train de parler et d'entendre Dieu quand nous prions. Nous ne sommes pas en train de faire des devoirs religieux. Vous me suivez? Amen. Et il ne faut pas qu'on mélange ces choses. Parce que Dieu n'est pas religieux. Dieu va être intime avec vous. Et il va vous parler en tant que fils. Un fils différent que ta sœur ou ton frère. Il est personnel avec nous. Et c'est ça qui est merveilleux d'être chrétien. N'est-ce pas? Parce qu'il nous prend comme nous sommes. Et il ne fait pas des copies conformes. Et moi, je trouve ça génial que je peux être moi-même. Oui, si vous l'aimez ou pas, je suis moi-même. Et je veux que vous soyez vous-même. Si je l'aime ou pas, c'est pas grave. Mais que vous soyez vous-même. N'est-ce pas? Parce que vous allez pouvoir toucher les gens que je ne peux jamais toucher. En étant vous-même. Et je vais pouvoir toucher les gens que vous ne pouvez jamais toucher en étant moi-même. D'accord? C'est bon? Donc, en ce temps-là, Actes chapitre 6, le nombre des disciples augmentait. Les Hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquaient la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc il faut entendre ce qu'ils sont en train de dire et ce qu'ils ne sont pas en train de dire. Ils ne sont pas en train de dire, ce n'est pas important de servir aux tables. Ils n'ont pas dit, nous sommes trop importants pour servir aux tables. Oui? Que maintenant nous sommes quelqu'un, ils sont pas en train de dire cela. Ils disent, il n'est pas convenable de laisser la parole de Dieu. Et nous avons fait l'erreur dans les églises de permettre aux pasteurs, aux enseignants, à ceux qui ont un ministère de la parole, de laisser la parole pour faire les choses comme servir aux tables, pour nettoyer. Et on entend les gens dire, oh, notre pasteur est génial, il est en train de construire notre église. Mais dimanche matin, il n'a plus rien pour nourrir les gens de l'église. Pourquoi? Parce que toute la semaine, il a construit l'église. Il est en train de bâtir avec ses mains et il est épuisé. Il dit, il n'est pas convenable. Et ce que nous avons besoin, ce que vous avez besoin de faire, c'est d'assurer que votre pasteur est libre pour passer du temps dans la prière et dans la parole pour qu'il puisse vous nourrir. Ça, c'est notre travail à chacun d'entre nous. Comment pouvons-nous faire cela? Écoutez l'Esprit de Dieu, il va vous dire. Hallelujah. Il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous changerons de 7 emploi. Et nous? Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole de Dieu. J'ai ajouté de Dieu. Au ministère de la parole. Verset 5, ces propositions plurent à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménéas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentaient aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. Je pense qu'un bon principe spirituel, biblique, quand quelqu'un vous demande faire quelque chose, que vous lui demandez de prier pour vous. Surtout si on vous demande de faire quelque chose au niveau de l'église, oui, est-ce que vous pouvez imposer vos mains et prier pour moi? Si on vous donne une responsabilité, oui, c'est bon de demander ça. On veut partager l'onction. Amen. C'est un signe de respect pour la personne qui nous a demandé, mais aussi il y a des dons qu'on puisse recevoir par l'imposition de mains. Paul dit à Timothée, moi, je veux que vous ranimiez les dons que vous avez reçus par l'imposition de nos mains, ou des mains des anciens. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est bon de voir les choses, mais moi je veux savoir quels sont les résultats. Il dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. On a libéré ceux qui avaient le ministère d'annoncer, d'enseigner, oui, la parole, pour qu'ils puissent le faire, qu'ils puissent prier, passer le temps devant Dieu, et dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Écoutez bien, le nombre des disciples augmentait. Et qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup. En verset 1, il dit le nombre des disciples augmentait. Augmentant, ici, le nombre des disciples augmentait beaucoup. Pourquoi? Parce que d'autres personnes se sont mises à l'œuvre. Je ne sais pas si vous réalisez, mais si vous dites, moi je suis rien, moi je ne peux rien faire, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que les autres attendent de moi? Oui, l'œuvre ne grandit pas. Mais si vous dites, qu'est-ce que je peux faire? Je suis sûr que je peux faire quelque chose. Oui, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Je veux faire quelque chose. Je ne suis plus bébé en Christ. Dieu m'a donné des talents. Voilà ce que je pense que je veux faire dans le naturel. Mais peut-être vous avez quelque chose à cœur. Peut-être vous avez besoin de quelque chose. Est-ce que je peux vous aider, pasteur? Je ne sais pas si vous voulez dire ce qui se passe dans l'église, où chacun a cette attitude. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je pense que Dieu peut augmenter, oui, beaucoup. Amen? Mais trop souvent, les gens ont l'attitude de « Quelqu'un d'autre peut s'en occuper des enfants, des bébés, ils font trop de bruit, moi je vais écouter le pasteur. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Peut-être une fois par mois, vous pouvez laisser la parole et faire quelque chose pour servir les autres, je ne sais pas. Ce qu'on remarque dans les grandes églises, c'est que les gens se mettent à l'œuvre. Ils travaillent. J'ai été dans quelques églises immenses. Et c'est remarquable de trouver qui est en train de nettoyer les toilettes. Moi, j'étais à l'église de Willow Creek, 17 000 membres. Presque tous les gens sont du milieu aisé. Dans le parking, tu as des hommes d'affaires qui sont là en train de diriger les voitures. Dans les toilettes, c'est des hommes d'affaires. Moi, j'étais étonné parce que j'étais dans une toilette et il y avait un homme là avec son fils en train de veiller que tout était en place. C'était des immenses toilettes, 17 000 personnes, vous imaginez. Donc, ouais, tout était propre. Et je voyais cet homme et j'étais un peu interpellé par pourquoi il y avait un homme là avec son fils. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, mais c'est mon dimanche, c'est moi et mon fils. Nous surveillons les toilettes pour assurer que tout est propre et que tout est en place. Et j'ai appris après, c'était un homme d'affaires. Mais il est en train d'élever son fils à comprendre que dans l'église, on ne faisait pas que s'asseoir, écouter le message. Et ça, je pense, m'a marqué plus que le message que le pasteur prêchait ce jour-là. N'est-ce pas? Oui. Mais nous, on va être au premier rang, écouter le pasteur. Oui, peut-être on a déjà fait ça quelques années. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Écoutez ceci. Et une grande foule des sacrificateurs obéissaient à la foi. Je pense qu'ils ont donné aux apôtres. Et vous comprenez quand l'église a commencé avec les apôtres. Il n'y avait pas encore les autres ministères. Ils sont venus au fur et à mesure. Oui. Mais ils ont donné aux apôtres plus de temps dans la parole, plus de temps intime avec Dieu. Et je crois que leurs messages sont devenus encore plus forts. Et c'est pourquoi on a même les sacrificateurs, ces hommes qui ont envoyé Jésus à la croix, se sont convertis, se sont obéis. Oui, il dit, hallelujah. À la fois, Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Et je veux savoir... Écris-nous un petit peu plus, Luc. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était quoi ces grands miracles et des prodiges? Il est en train de servir aux tables. Est-ce qu'on peut imaginer un moment ce qu'il pouvait être en train de faire? Tu penses qu'il était en train de multiplier les pains et les poissons, peut-être? Moi, je pense. C'est intéressant, n'est-ce pas? On apprend seulement sur deux de ces diacres. Oui? On ne sait pas ce que les autres sont devenus. S'ils ont resté diacres toute leur vie, il se peut. Quelle grâce que Dieu nous retrouve quand Jésus revient en train de faire ce qu'il nous a laissé faire. Amen. Qu'on soit fidèle au poste. Amen. Quand une femme devient maman, elle n'est pas maman l'instant que le bébé naisse. Elle est maman pour le prochain 18 ans. Et peut-être, jusqu'à la fin de ses jours, elle sera toujours maman parce que même quand sa fille devient maman, elle va venir prendre des conseils, n'est-ce pas, demander. Oui, la relation change, c'est évident. Mais combien c'est merveilleux de savoir que quand le Seigneur revient, qu'il nous trouve fidèles en train de faire ce que il nous a donné faire. Étienne, premier martyr, il est devenu un grand orateur. Quand on lit le chapitre 7, on entend la façon qu'il s'exprime, c'est extraordinaire. Pour cela, il est mis à mort. Ne pleurez pas, celui qui meurt dans le Seigneur. Ils ont leur récompense, n'est-ce pas? Philippe, c'est l'autre. Philippe a commencé en tant que diacre. Vous savez ce qu'il est devenu? Il est appelé plus tard Philippe l'évangéliste. Et nous avons cette histoire extraordinaire. J'aime la parole de Dieu, mais Actes chapitre 8, c'est formidable. Vous voyez, la persécution, Saul est en train d'outrager l'église, de persécuter l'église avec les autres. Et Philippe, il part en Samarie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie. Donc, il est parti en Samarie. Et qu'est-ce qu'il voit? Il n'est plus en train de servir aux tables. Verset 5 de chapitre 8. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Oui, Philippe l'évangéliste. Il n'a pas enseigné. Il a prêché le Christ. Les foules toutes entières étaient attentives à ce qu'il faisait. Philippe disait Philippe, lorsqu'elle apprit et vire les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plus de démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup, tout le monde dit beaucoup? Beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Et il y a une grande joie dans cette ville. Et on peut continuer, l'histoire de Philippe est magnifique. Il avait 4 filles plus tard, quand il est appelé Philippe, l'évangéliste qui prophétisait. Mais on voit, il a commencé en tant que diacre. Il servait fidèlement aux tables, il libérait les apôtres pour leur ministère de la parole et la prière. Il est devenu un évangéliste. Donc peut-être vous dites, mais ils m'ont demandé d'accueillir les gens le dimanche matin. Je crois que Dieu veut que je fasse quelque chose de bien plus important que cela. Mais commence avec ce qui vous permet de faire. Amen. Commence avec quelque chose. Mais si vous dites, moi je fais rien dans l'église, moi je dis, vous n'accédez à aucun ministère. Amen. Mais si on est fidèle, on peut laisser l'onction de Dieu reposer sur nous et on peut laisser Dieu nous utiliser et devenir peut-être bien plus que ce qu'on a imaginé qu'on peut devenir. Donc on retourne à 1 Timothée. Votre droit peut-être est fatigué par maintenant, si vous avez laissé le droit. 1 Timothée 3, parce qu'il a parlé d'évêques, mais il parle aussi de diacres. Et je pense qu'on a deux... qu'est-ce que le mot que je cherche? Critères. Bien séparés. On attend autre chose de ceux qui sont appelés aux 5 ministères, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, pasteur, docteur. Exigences sont différentes pour eux que pour nous. Et je pense que c'est une erreur parce que quand on va lire ce qu'il dit de diacre, on trouve presque exactement la même chose. C'est pourquoi vous exigez quelque chose de plus des autres que vous-même. Je pense que quelquefois on n'est pas très compatissant et miséricordieux envers les autres. Certains sont tellement durs avec les autres. Il faut être un peu dur avec toi-même, pas trop. Mais donner la grâce aux autres. Il se peut que si vous étiez dans les mêmes circonstances qu'eux, vous ne ferez pas aussi bien. Amen. Mettez-vous dans leur pantoufle un instant. Oui. Nous avons quelqu'un dans l'église qui a perdu sa femme. C'était tragique. Oui. Leur fille avait 13 ans, il a 14 ans maintenant, l'année dernière. Et les gens disent, comment est-ce qu'il va? J'essaie de manger avec lui chaque mois, passer du temps avec lui. Je dis, je pense qu'il va à merveille. Je ne sais pas si moi je pouvais faire aussi bien si c'était moi qui avais perdu ma femme. Ouais. Certaines personnes veulent que tu vois qu'il rebondit et qu'il vient dans l'église avec un grand sourire. Il continue à servir le Seigneur. Il est fidèle au poste. Il est engagé depuis des années. Sa femme était la première personne convertie dans notre église en 85. Il s'est converti peu de temps après. Mais moi je dis, si c'était moi, je ne sais pas si je ferais aussi bien. N'est-ce pas? Et je pense qu'on doit avoir cette attitude envers les autres et non pas porter jugement et critique sur eux. Je sais que je reviens sur la même chose, mais c'est important. Il dit le diacre, verset 8 de 1 Timothée 3, aussi doivent être, quoi? Oh, j'ai pensé que c'était seulement les pasteurs qui n'avaient pas le droit de mentir. Honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. On n'aime pas ça, n'est-ce pas? On veut que les gens nous donnent les choses et après qu'ils nous laissent tranquilles, si on fait ou on fait pas. Mais c'est pas comme ça. Il faut qu'on, même qu'on exige que les gens nous éprouvent. Si le pasteur vous donne quelque chose à faire, il faut vous dire, ok, je suis d'accord, je m'engage, mais est-ce qu'on peut se revoir ici 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an? Pour voir si vous êtes content, satisfait avec ce que je fais, s'il y a des choses que tu veux que je change. Je pense qu'on est un peu flou dans le corps de Christ. On n'accepterait pas ça dans les entreprises. Pas pour un instant, mais dans l'église, on accepte les choses, on laisse les gens nous débarrasser de leurs problèmes sur nous, sans avoir le droit même de dire, est-ce que je fais bien, mais dis-moi. Oui? Et si jamais vous êtes en position d'autorité et vous êtes en train d'engager les autres dans, oui, soit on délègue bien qu'on demande un rapport, tu vois, et on utilise notre position d'autorité pour encourager et aider. Et si vous avez beaucoup encouragé, vous avez le droit de corriger. Si vous n'avez pas encouragé, oui, votre correction va seulement blesser. Ça c'est un mot pour les sages, donc il faut le prendre. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche, les femmes de même doivent être honnête, non médisant, sobre, fidèle en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Je pense que ces choses nous sont très très utiles, oui, pour comprendre le sérieux du ministère. Amen. Il y a un sérieux parce que les autres sont affectés par ce qu'on fait. Surtout, on ne veut pas mettre en question l'œuvre de Dieu. Vous êtes d'accord? Mais n'attends pas quelque chose de votre pasteur si vous n'attendez pas ça de vous-même. Quelquefois, je suis étonné par la façon que les gens attendent de leur pasteur des choses, mais eux-mêmes, ils ne feront jamais. Mais pourquoi le pasteur a une nouvelle voiture? On ne dit jamais ça d'un membre de l'église. Pourquoi un membre de l'église a une nouvelle voiture? On est toujours ravi que quelqu'un ait une nouvelle voiture. Mais le pasteur, il a payé ça comment? Mais peut-être vous aurez dû payer sa nouvelle voiture. C'est ça le problème. Moi, je connais dans les églises où il y a des hommes d'affaires qui refusent d'aller acheter un nouvel costume sans emmener le pasteur à acheter un costume pour le pasteur. Mais ça va pas. Ce pasteur nous représente. Il va dans les conventions et il vient de notre part et nous devons l'habiller. Nous devons prendre soin. Oui? Et pour certains, c'est, oh, ah, mais non. Mais il faut que nous décidions ce qu'on veut. Dans les églises, donc des grandes églises, vous allez trouver des pasteurs qui sont bien habillés, qui sont payés, qui ont des salaires corrects, et l'église continue à prospérer. Les membres de l'église ne sont pas limités par ça, ils sont bénis par ça. En réalité, peut-être on devait regarder oui, 1 Corinthiens 9, versets 9 et 10. Je pense qu'on veut appliquer une règle pour les pasteurs que nous n'appliquons pas à nous-mêmes. Tu vois, Seigneur, tu le gardes humble et nous le garderons pauvre. Parce qu'on a cru ce mensonge qui vient de la religion du monde et non pas ni de judaïsme et surtout pas de chrétianisme. Vous voyez que quelqu'un qui est pauvre est spirituel. Moi, je peux vous emmener dans la rue, vous montrer les gens pauvres, ils sont tous sauf spirituels. C'est vrai, je peux vous emmener et voir les gens riches qui ne sont pas spirituels non plus. La richesse n'égale pas la spiritualité. Mais ce qu'on voit, c'est que ceux qui cherchent Dieu devraient prospérer. N'est-ce pas? Et peut-être nous devons avoir part à cela. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 9 et verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi de Moïse? Tu n'émuseras point le bœuf quand il foule le grain. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole de Dieu, c'est une révélation progressive. Ne vous arrêtez pas, continuez à lire, d'accord? Quand vous lisez quelque chose que vous ne comprenez pas, surtout ne vous arrêtez pas, d'accord? Continuez à lire. Souvent, c'est comme dans les examens à l'école. Vous rappelez que si tu avais des questions, ouais, tu ne comprenais pas la première question, deuxième question, troisième question, et la quatrième question, répondez aux premières questions. Et la cinquième question, souvent, et si on continue, mais on se bloquait, n'est-ce pas? Quand on était tout petit, on se bloquait sur une question, on était là, je sais pas la réponse. Au lieu de continuer, et souvent, on répondait à une autre question, on arrivait à nous rappeler et on pouvait faire la première question. C'est pareil dans la parole, il faut continuer, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu se met-il en peine des bœufs? Donc, est-ce que Dieu est écolo? Parce qu'il y a des gens, tu vois, qui pensent plus aux baleines qu'aux enfants. J'ai entendu les statistiques que 70%, c'était ça, des écologistes sont pour l'avortement. Quelque chose comme ça. Et vous dites, c'est bien ça, oui. Vraiment, on va sauver les baleines et tuer les bébés. Il y a un problème quelque part. La justice de l'homme est pourrie. Esaïe nous a déjà dit, mais on le voit, n'est-ce pas? Oui. Je suis rien pour ne pas tuer les animaux d'une façon inhumaine. Humain. Est-ce qu'on peut tuer les animaux d'une façon inhumaine? Tu vois, de les faire souffrir. Ça, c'est ma pensée britannique, excusez-moi. J'ai un sens de l'humour un peu bizarre. Mais on ne veut pas faire souffrir, n'est-ce pas? Mais en même temps, tu vois, les gens qui disent à ma femme qu'elle ne devrait pas porter une fourrure, on dit, mais tes chaussures sont tous en plastique, n'est-ce pas? Tu vois, il y a des choses comme ça. Et Laura répond toujours, c'est que Dieu qui a tué le premier animal pour donner, ouais, la peau, ouais, à Adam et Ève. Donc, que nous soyons, faisons attention, d'accord? Parce que quelquefois, on est plus juste que Dieu. Ouais. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui labore doit laborer avec espérance et que celui qui foule le grain foulera avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer obstacle à l'évangile de Christ. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce que je vois à travers le monde, oui, les églises qui soutiennent bien leur pasteur prospèrent. Ils libèrent leur pasteur. Et un pasteur a le droit d'un bon salaire, un salaire convenable comme tout homme ou toute femme. Et c'est à nous de voir ça et d'assurer cela. Et c'est pourquoi Dieu a dit, pas donner 90% de vos revenus, il a dit donner 10%. Amen. Et donc si dans chaque église, chacun donne leur dîme, oui, il y aura assez. Mais moi je dis, je ne peux pas contraindre les autres. Je peux seulement faire moi ce que je vois dans la parole de Dieu. Être fidèle en cela. Et quand l'Esprit de Dieu me dit, parce que Malachi parle, c'est pas seulement des dîmes, mais des offrandes. Quand Dieu me parle de donner des offrandes, que je les donne. Amen. Et ce que vous allez voir, si vous n'avez pas encore expérimenté, je vous encourage à le faire. Expérimentons, donner des offrandes au-delà de vos dîmes et voir ce que Dieu va faire pour vous. C'est ce que nous avons fait. Je sais, Claude et Joël peuvent témoigner de leur maison. Ils ont commencé à semer des offrandes parce qu'ils voulaient construire eux-mêmes une maison. Et Dieu a fait en sorte qu'ils pouvaient. Nous avons vécu ça dans maints domaines où on a semé exprès parce qu'on avait envie de faire quelque chose. Et Dieu a toujours, il a dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Et nous avons tous besoin de vivre des expériences pour qu'on puisse arriver à cette position de prospérité, comme je vous ai dit, où nous avons en toute chose de quoi satisfaire à tous nos besoins et encore en abondance pour toute bonne œuvre. Si vous n'êtes pas là encore, moi je dis, commence à expérimenter avec Dieu. Donnez votre dîme, fidèlement. Fidèlement. Et commencez à donner des offrandes là où Dieu vous met à cœur de donner. Parce que quelqu'un crie, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de donner. Moi, je fais très attention même des gens qui crient très fort. Moi, je préfère entendre le cri dans mon cœur quand Dieu dit, je veux que tu donnes. Souvent, je trouve, ma femme et moi, on trouve que Dieu nous demande de donner aux personnes qui disent absolument rien. Surtout, j'aime pas faire comme tous les autres. Mais j'aime obéir à l'Esprit de Dieu. Et quelquefois, nous sommes étonnés, c'est vrai. Et quelquefois, les gens, oh, tu as lu ce témoignage et un tel a fait ceci et a eu cela. Oui, le témoignage, ça vient toujours de quand on sort de l'ordinaire. Et j'ai vu ça au niveau des dons, de donner. C'est quand Dieu me dit de faire quelque chose de qui sort de l'ordinaire, Dieu fait quelque chose qui sort de l'ordinaire pour moi. Amen. On va prier. Je pense qu'on est arrivé là. Encore quelques minutes. Je sais bien. Hallelujah. C'est bon?
Oui.
Vous vous sentez assez remué?
Oui.
Amen. Vous avez envie de servir le Seigneur?
Oui.
Oui? Vous croyez que vous pouvez faire quelque chose?
Oui.
Vous croyez que vous êtes utile?
Oui.
Oui, relisez Philémon, d'accord? C'est vraiment un bon petit épître. Mais je pense que le message est important. Si c'est inclus dans notre Bible, il est là pour notre bien-être. Père, je veux prier pour mes frères et sœurs. Merci, Seigneur. Père, je prie pour chacun. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as dit dans leur vie, ce que tu as parlé dans leur cœur. Père, je te remercie. Merci parce qu'ils sont utiles. Merci parce que tu as un appel dans leur vie. Merci parce qu'ils sont nécessaires. Et le corps de Christ a besoin d'eux. Père, je sais que certains ont entendu les choses qui les a étonnés même. Peut-être pour certains, c'est une révélation d'entendre ces choses. Mais Seigneur, je te remercie qu'ils vont méditer ces choses, relisez, étudier, vérifier dans ta parole. Et Seigneur, qui vont voir la véracité de ces choses. Et ce qui peut être à ce moment être quelque chose d'étonnant va devenir quelque chose de sûr et certain dans leur vie. Père, qu'ils vont se lever pour prendre leur place dans l'Église. Et leur Église va aller de l'avant à cause de leur participation. Et que les dons que tu as semés en eux vont commencer à apparaître, des dons et des talents naturels. Mais Père, nous voulons plus que ça. Nous voulons les dons et les talents et capacités surnaturelles, des ministères même. Et Seigneur, nous prions pour ceux qui ont montré et qui ont été fidèles depuis les longues années, qu'ils puissent accéder à tout ce que tu as préparé pour eux. Seigneur, nous avons essayé de briser les bords des boîtes, de sortir de les boîtes, de les faire penser et imaginer plus grand. Et merci Seigneur que cette région va en bénéficier. Alsace va bénéficier, la France va bénéficier, le monde va bénéficier. Merci Seigneur. Et Père, quand nous regardons les uns les autres, Père, aide-nous de ne pas mettre des limites sur nos frères et sœurs. Parce que tu es leur Dieu. Tu es leur capacité. Merci Seigneur que chacun va accomplir. Père, nous voulons terminer notre vie et entendre bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Et Père, nous savons si on entend ces choses à la fin, nous allons vivre la joie ici-bas. Père, merci parce que tu nous as sauvés d'une vie ennuyeuse. Tu nous as sauvés de l'enfer. Tu nous as sauvés, oh Seigneur, de plein de choses. Mais merci, tu nous as sauvés pour te servir et pour servir ton corps et être un ambassadeur dans ce monde. Merci Seigneur. Merci que les gens vont être sauvés grâce à notre vie. Merci Père. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Vous connaissez peut-être, je n'ai pas donné ce verset, je le donnerai. 2 Corinthiens 5, c'est 20, Laura. Que nous sommes ambassadeurs pour Christ, parce que quelquefois on présume que les gens connaissent. Oui, 2 Corinthiens 5, 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, j'aime pas citer quelque chose et pas vous donner mes références. Comme ça, vous pouvez vérifier. Et comme j'ai dit dans ma prière, j'espère que vous allez vérifier ces choses. Vous n'avez pas besoin d'accepter quoi que je dis, oui, si vous ne le voyez pas dans votre Bible. Mais si vous le voyez dans votre Bible, il faut le vivre. Il faut le mettre en pratique. Amen. Soyez bénis.